BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h, l'heure de débuter cette deuxième heure de BFM Patrimoine, l'heure aussi d'aller faire un petit point sur les marchés avec Antoine Larrey-Gaudry qui depuis le siège d'Euronext à la Défense suit pour nous les évolutions du marché. Bon, on est stationné là où on a laissé le CAC hier soir.
Oui, globalement, on est vraiment sur des niveaux d'équilibre. Une petite baisse, là, -0,1%. 6216 points, mais enfin, rien de bien grave. Le climat est juste très hésitant. Sur l'ensemble des places européennes, d'ailleurs aussi, l'Eurostock 50, +0,16 et +0,24 pour le DAX à Francfort. On se félicite à Paris de voir que l'indice CAC 40 et que les indices européens résistent quand même mieux à Wall Street par rapport à ce qu'on a pu connaître en début de semaine. On résiste bien, en fait, à un coup de froid boursier consécutif aux considérations d'inflation, parce qu'on voit qu'elle a du mal à reculer malgré toute la volonté des banques centrales dans leur processus de normalisation monétaire. Et du coup, on a vu un gros coup de mou du côté de Wall Street, mais il est moins sensible du côté européen. Donc du coup, on en profite et ça permet à certains secteurs de bien se comporter en bourse. On a Société Générale qui signe depuis le début de la séance la plus forte hausse de l'indice, à +1,47%, on est à 24,58. On a Publicis aussi qui prend 1,35% à 52,66, ST Microelectronics +1,32 à 36,34 et Eurofin Scientifique +1,29 à 67,74 €. Alors on le voit sur ce cocktail de valeurs à la hausse, l'hésitation du marché, il y a aussi une hésitation totale sur les secteurs à acheter ou à délaisser. On est vraiment sur du cas par cas. Parmi les valeurs à la baisse, en revanche, on a les valeurs de croissance avec la techno. Dassault Systèmes recule d'1,5% à 37,37 €. On a Hermès aussi -1,5% à 1,275 €. Ou encore Capgemini -1,4% à 175,75 €. À noter sur le SBF 120 une forte hausse d'Accor qui prend 2,28% à 25,09 €. On a Elior aussi +1,95 € à 3,24 €. Alors qu'à la baisse, on retrouve Elis qui perd 3,18% à 12,19 € depuis le début de la séance. C'est la plus forte baisse de l'indice large et on a Quadient -2,84 € à 16,44 €. Le CAC 40 donc sur un très léger repli, -0,12%, 6214 points. L'euro toujours proche de la parité face au dollar à 0,9989. Cédric.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Frédéric Rosier et Hervé Gouletker sont en plateau. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous. Frédéric Rosier pour Mirabeau, Hervé Gouletker pour Accuracy. Ce marché, il se cherche, là, il ne sait plus sur quel pied danser. Pourtant, il a des indications assez claires. Les banques centrales ont dit on monte, les boîtes ne se portent pas si mal. Enfin, pourquoi on hésite à ce point-là, Hervé ?
Ben, on hésite parce que on s'interroge sur les affirmations des uns et des autres. Quand les banques centrales disent « scrogneugneux, on monte les taux et l'inflation, elle n'a qu'à attendre, elle va finir par baisser », le marché se dit « oui, aujourd'hui, ils montent les taux, mais est-ce qu'ils vont les monter beaucoup ?» passionnément, à la folie, on ne sait pas très bien, ça va dépendre évidemment du profil des prix, et on est surpris qu'on fasse les chiffres des prix à la consommation d'août aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas que l'inflation, l'activité économique, ok, elle se porte pas trop mal, elle fait de la résistance, mais jusqu'à quand ? Avec quel impact sur la banque centrale ? Et puis, on peut dire à peu près la même histoire sur les entreprises. Certes, aujourd'hui, elles nous disent les résultats sont bons, mais dans un contexte où l'activité économique ralentit, avec la question sur l'ampleur du ralentissement, est-ce que cette résistance va tenir ? Est-ce qu'on va pas être surpris ? Est-ce que la révision baissière va pas être plus importante ? Bref, il y a un peu un constat à aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a une pondération du court terme qui est très importante, mais on voit bien qu'on essaie de voir un peu plus loin que le bout de son nez, et quand on allonge la focale, eh bien, il y a plein de questions, et puis on n'a pas trop la réponse, et chacun étant un peu prudent, aimerait bien que ça soit l'autre qui montre le chemin et c'est pas ça. Soi, quoi.
Frédéric, comment vous expliquez cette période où on mouronne un petit peu en bourse ?
Alors, peu de gens sur le marché. On a très peu d'investisseurs institutionnels. C'est même un record aux États-Unis d'institutionnels absents du marché avec des positions de cash très très fortes. Alors pourquoi cette absence des institutionnels ? L'incertitude. On a une grande incertitude aujourd'hui. Le mouvement de taux, bah évidemment, les taux vont monter, 75, 100 points de base peut-être, on ne sait pas, au regard du dernier chiffre de l'inflation. Cette inflation, justement, le pic est certainement aux États-Unis derrière nous, mais ça ralentit vraiment pas rapidement pour le coup. Donc quand on se projette, on se dit, ben oui, à ce rythme-là, est-ce que ça va être difficile de descendre même en dessous de 5% d'inflation aux États-Unis ? Donc si on regarde un peu la politique de la Fed, ça veut dire que les taux pourraient logiquement monter jusqu'à 5. Alors bien sûr, je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Et il y a des facteurs nouveaux aujourd'hui. Le facteur, par exemple, en Europe, on va dépendre quand même de la météo. C'est sur les marchés, on va dépendre de la météo. On va regarder le matin, on va regarder le bulletin météo pour savoir si oui ou non cet hiver il va y avoir un froid polaire. Pourquoi ? Parce que vous avez entendu Monsieur Aude-Bézieux parlait effectivement d'arrêt de production, ça change la donne. Si on a un hiver en Europe où il fait plus 10, ça va, ça passe sans encombre, et je dirais que la croissance sera peut-être même résiliente. À l'inverse, si on est à moins 10, on va avoir des coupures de production. Donc là, pour le coup, la récession s'installe. Donc vous voyez, il y a plein de paramètres aujourd'hui qui s'ajoutent, qui fait que pour un investisseur long terme, et d'ailleurs, on voit bien tout le mouvement qu'on a connu cet été, c'était essentiellement des hedge funds, des investisseurs court terme. Et on le verra d'ailleurs là, vendredi, puisqu'on a des échéances des quatre sorcières aux États-Unis, on a 3 trillions de dollars qui vont être échangés, qui arrivent à échéance. Donc on a des montants colossaux sur les dérivés, sur les options. Donc on voit bien que ce sont plutôt une des interventions d'investisseurs très très court-termistes, mais pour le coup, en absence de visibilité, les investisseurs n'osent pas revenir massivement sur le marché.
Alors rentrons dans le détail de ces questions de banque centrale, avec notamment la réserve fédérale américaine, puisque c'est la prochaine à se présenter devant nous. L'inflation américaine est donc ressortie à 6,3% au mois d'août, et du coup les consensus se sont un peu affolés. On reste bien sûr, alors c'est Bloomberg qui nous dit ça, à 100% de probabilité pour une hausse de 75 points de base, mais on dépasse les 35% maintenant. Maintenant, pour 100 points de base, quelle est votre analyse, Hervé ?
Oui, alors, je pense qu'il faut garder raison, hein, le toujours plus. Et puis, voilà, il y a une nouvelle comme ceci, on la surpondère. Et donc, on revoit à la hausse l'hypothèse de remontée des taux. Non, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la Fed, aujourd'hui, est court-termiste, c'est-à-dire l'inflation, et qu'elle soit un peu plus haute, un peu plus basse, ne change rien à la donne. L'inflation est incommensurablement plus élevée que l'objectif fixé. Donc, elle continue la normalisation, le resserrement de sa politique. Je pense que la norme en la matière, et on le voit un peu partout, c'est 75 centimes. Je serais étonné que pour si peu, c'est-à-dire un chiffre d'août d'inflation un peu décevant, elle revoit un peu le rythme de remontée. On aura 75 centimes, ça je crois que c'est fait. Alors si c'est 100, c'est pas très grave. Je pense que comportementalement, ça ne change pas grand-chose, même si ça sera reçu sans doute avec un peu d'effroi par le marché. Je pense que la question derrière cela, c'est tout de même ce court-termisme, ce calant sur le niveau des prix, il va durer jusqu'à quand ? Parce qu'il y a quand même une double dynamique à prendre en compte. Il y a d'abord les prix. Bon, pour le moment, ils ont bien monté, mais c'est la petite bête qui monte et qui descend. Et quand on voit, par exemple, ne serait-ce que l'activité logement. Le logement, dans l'indice des prix à la consommation, le CPI, ça doit bien peser 25% de l'indice. Donc c'est quelque chose qui est important, et on voit bien que la conjoncture immobilière est plutôt en train de se retourner. Ça aura un impact sur les prix de vente, puis un impact sur les loyers. Donc en fait, il est raisonnable de dire que les prix, est-ce qu'on est au plus haut ? On est proche du plus haut, pour combien de temps ? Mais voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas que les prix dans la vie. Il y a quand même le rythme de la croissance, ses implications sur le marché du travail, le tout dans un contexte politique. On a des élections. Moi, je pense que le court-termisme ne durera pas.
D'accord.
Alors, combien de temps ? Jusqu'à la fin de l'année, j'aurais envie de dire oui, et tant pis dans ce cas-là pour les élections. La Fed ne les regardera pas. Mais il y a un moment où le tempo de remontée changera. Moi, j'aurais envie de dire dans les premiers mois de l'année prochaine.
Frédéric,
sur les anticipations.
Quelle analyse vous faites de cette marche presque un peu forcée de la Fed ?
Alors, plusieurs réflexions, 75 points de base. Immédiatement après la publication du CPI, on était plutôt à 15, entre 15 et 18 % qui pensaient effectivement 100 points de base. Donc là, ça remonte, ce qui me rassure plutôt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 75 points de base, je pense que le marché monte. Vous voyez, sur ce genre de... Parce qu'on commence à anticiper... le scénario du pire, en tout cas, c'est-à-dire une Fed qui dérape, qui sort de sa trajectoire et qui monte de 100 points de base. Donc c'est plutôt quelque chose qui me rassure, effectivement, d'avoir ces anticipations plutôt à la hausse. Alors la Fed, elle va regarder aussi une chose, c'est que vous savez, on est en négociation aujourd'hui, notamment dans le transport du fret. C'est des négociations très importantes. Hein. Le fret, par train, c'est un quart du transport du fret aux États-Unis. Donc, il y a des menaces de grève. Les négociations salariales sont ardues et on voit qu'il y a eu beaucoup de négociations salariales aux États-Unis avec des remontées de salaires énormes. Pour le coup, colossal. En moyenne, là, sur les négociations, on a plus de 7% d'augmentation des salaires. Il y a des branches dans la restauration. On a vu des augmentations sur les minima de quasiment 20 à 30%, dans le transport aérien de 30%. Et je pense que si la Fed va intégrer le fait qu'on est dans une spirale salariale relativement forte, puissante, et donc, voilà, je pense qu'il y aura toujours un message très, très prudent sur l'inflation de la part de la Réserve fédérale au regard de ces facteurs-là.
Malgré tout, tout le monde a un peu besoin d'un horizon, d'un but, de quelque chose d'un cap à franchir. Enfin, pendant longtemps, on nous a parlé du taux neutre. Puis comme là, on commence à le tutoyer et qu'il y a toujours de l'inflation, on nous parle maintenant du taux réel. Comment on voit les choses, Hervé ? C'est quoi le cap qu'il faut qu'on franchisse ?
Je pense que, il faut écouter la Fed d'une part, et puis il faut se
souvenir. Parce que la question pourrait être posée aussi pour la BCE, même si on est moins avancé. Mais bon.
En fait, le taux neutre, ça a un sens dans un monde équilibré, où vous avez un bon équilibre entre l'offre et la demande, un bon équilibre entre l'épargne et l'investissement. Dans ce cas-là, vous vous dites, eh bien, dans ce monde idéal, comment je cale le niveau de mon taux directeur, niveau de courbe des taux, point par point, maturité par maturité, ça me donne. Mais la référence, elle ne vaut pas beaucoup aujourd'hui parce que l'équilibre, il est juste assez mal foutu entre l'offre et la demande. Donc en fait, je pense que le taux neutre, c'est une référence de moyen terme, mais qui ne vaut pas pour aujourd'hui. Non, ce que l'on doit comprendre, c'est qu'on est plutôt dans le comportemental, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine et la Banque Centrale Européenne n'est pas loin de dire pareil. Je veux ramener l'inflation vers la cible. S'il y a un prix à payer en termes de conjoncture économique et en termes de conjoncture de marché, nous paierons ce prix. Voilà, c'est le message et on oublie donc les taux neutres ou les taux réels. C'est pas très adapté. Après, le point, c'est que, et je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants, le point, c'est de savoir quel est finalement le niveau de conviction dans cette posture que les banques centrales ont choisie. Et c'est là où l'histoire est intéressante, hein, et l'histoire américaine. Vous avez Arthur Burns, donc première partie des années 70, qui est confronté à une inflation qui monte, mais qui, à un certain moment, dit « bon, ben, l'activité vacille, on baisse les taux, et donc on a finalement une inflation encore plus forte ». Aucun banquier central aujourd'hui ne veut tomber dans cette ornière. Et après, l'autre expérience, c'est évidemment Volcker, celle dont on se souvient le plus, qui lui a dit « inflation d'Hélène Est, l'inflation sera vaincue », et donc qui a monté les taux des fonds fédéraux à 20% pour casser cette inflation au prix d'une terrible récession. Et donc, on voit bien, le choix est entre les deux. Et comment se positionner ? Personne ne veut être Burns, mais en fait...
Personne n'osera être...
Voilà, mais personne n'osera peut-être être Volcker. Et c'est là où il faut élargir le débat, c'est-à-dire que les équilibres politiques, la stabilité politique, la cohésion politique étaient plus fortes dans les années 70 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, jouons à Volcker. Est-ce que, économiquement, ça pourrait faire sens? Moi, je crois que l'inflation n'est pas un tel risque qu'il faut entrer dans une politique à la Volcker. Mais n'oublions pas aussi que derrière l'économie, il y a un terreau social et politique. Et aux États-Unis, il est très fragile. Mmh. Juste pour finir, un sondage, quand on interroge les Américains, est-ce qu'on aura une guerre civile dans les 5 à 10 ans? C'est une question absurde. Hein. Ouais. Ben, il y a plus de 40% des gens qui répondent oui.
Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est pour la crédibilité des sondages. Bon, quelque chose à ajouter ou pas sur ces banques centrales? C'est vrai que ça n'arrange pas forcément les affaires de la BCE, qui est confrontée au one size fits all, aux questions italiennes.
Voilà, le taux d'endettement, on a les élections italiennes aussi qui approchent. C'est très délicat. Je rappelle que le taux d'emprunt de la France, c'est-à-dire le coût de la dette aujourd'hui aux alentours de 1,20-1,30. Donc vous imaginez bien que si les taux revenaient à remonter, alors pas immédiatement bien sûr parce qu'il y a du rôle de dette, mais ça a un coût financier relativement important. Je ne vous parle même pas de l'Italie. Donc, et on marche un peu sur des œufs. On est très limité honnêtement sur la hausse des taux en Europe. Aux États-Unis, je répète, hein, normalement les taux devraient être à 5. Si on est logique, en point pivot, on sera à 5. Donc, on n'ira pas jusque-là. Je pense que l'économie américaine ralentira avant d'arriver à ce point-là. Et je pense que l'accélération est faite aussi pour se donner des marges de manœuvre pour pouvoir réduire ces taux au cas, effectivement, où le ralentissement serait trop fort.
Autre zone qui a pas mal d'importance, c'est la Chine. On voit qu'il y a cette rencontre aujourd'hui entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'on peut penser de la Chine? On a aussi des mesures assez fortes qui sont lancées, mesures de soutien qui semblent avoir du mal un petit peu à convaincre. Et là aussi, on pourrait saupoudrer tout ça de politique, puisqu'on a la réunion du Congrès qui arrive à grands pas et qui doit conforter Xi Jinping. Comment est-ce que vous regardez cette Chine? Enfin, est-ce que c'est encore pour vous, chez Mirabeau, une zone d'investissement, une zone de prudence,
oui,
une zone
alors, de... les deux, parce qu'effectivement, il y a le 20e congrès du Parti communiste, donc on attend toujours des choses dans ce congrès. Il y a des tensions, il commence à avoir des manifestations en Chine. Faut bien se rendre compte de ce qui se passe dans le secteur immobilier, avec ces grands acteurs de l'immobilier qui sont obligés de détruire des barres entières d'immeubles pour pas avoir payé les charges de ces constructions. Donc on a des vraies tensions sur le secteur financier. Par contre, la consommation, c'est un biais sur lequel effectivement on peut jouer, puisque clairement la politique aujourd'hui du Parti communiste chinois, c'est plutôt du soutien à la consommation. Donc voilà, je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans la façon d'investir. Bien sûr, le marché chinois est le moins cher en relatif, beaucoup moins cher que n'importe quel autre marché, avec des perspectives de croissance relativement fortes, mais avec des grandes incertitudes. Des incertitudes qui sont des incertitudes institutionnelles, des incertitudes par rapport effectivement à la contagion qu'on pourrait avoir sur la sphère financière de ce qui se passe dans l'immobilier. Mais concernant la consommation, je pense qu'il y a des bonnes opportunités. Donc voilà, je pense qu'il faut pas... Vous voyez, on se pose toujours la question, est-ce que je dois acheter par exemple des ETF sur la Chine? Je pense qu'il faut avoir plutôt une gestion plus adaptée et aller plutôt sur des acteurs de la consommation.
La Chine, Hervé, quel regard portez-vous sur ce moment entre une économie quand même un peu en plein marasme et une politique qui doit...
Je pense qu'il faut
faire un choix, quoi.
Il faut remettre l'économie dans l'environnement choisi par le président Xi, sachant que le président Xi, les Chinois vont s'en prendre au moins pour encore 5 ans. Xi, ce qu'il nous dit simplement, c'est que le modèle économique chinois, tel qu'il a été progressivement mis en place depuis Deng Xiaoping, hein, donc ça fait la fin des années 70, hein, est en train de changer. C'est-à-dire que cette espèce de libéralisation partielle de l'économie, de place plus grande donnée au secteur privé, tout ça, c'est aller trop loin. Ça empêche ou ça nuit à l'efficacité de la gestion par le centre, donc par le parti État en Chine. Et donc, on vit une période où, on redonne de l'importance au secteur publics. Hein. C'est vrai dans la gestion conjoncturelle, la gestion de court terme. Tous les plans de relance dont on parle aujourd'hui, c'est simplement substituer à une demande privée un peu faible, une demande publique. Et pourquoi la demande privée est faible ? Consommation et investissement, bah, le climat politique est un climat à l'incertitude. Et quand on parle d'incertitude en Chine, ça veut dire que la police peut être à votre porte demain pour je ne sais trop quelle raison. Donc, en fait, la Chine est en train de changer de façon de faire. Hein, son modèle économique évolue. Moi, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, ben, jouer sur avec des critères qui sont les nôtres, d'économie de marché, c'est quand même faire des contresens, quoi. La Chine évolue. Alors, ça reste une partie très importante de l'économie mondiale, donc on a envie de s'y intéresser, parce que ça nous a bien réussi, ou pas trop mal, tout au long des dernières décennies. On a envie de se dire qu'il faut continuer. Mais il y a une rupture, et je pense que dans notre façon d'intégrer la Chine dans les choix d'investissement, faut juste prendre en compte qu'il y a une rupture, que ça marche plus comme avant. Alors, quelle sera l'importance des marchés de capitaux dans ce nouveau cadre ? Ça, moi, j'ai un peu de mal à le dire. C'est toujours un baromètre de la dynamique de l'économie. Et ça va plaire aux Chinois. Mais voilà, ça sera sans doute moins ancré dans le réel de l'économie chinoise que ça n'a été le cas au cours des longues années passées.
Allez, il nous reste trois petites minutes, même pas pour terminer. Du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça, vous vous positionnez comment ? Et en clair, là, on est un peu à la perte de rentrée. Tout le monde s'est un petit peu réjoui de ne pas avoir eu de gros sursauts en bourse cet été, d'avoir donc plutôt un été moins chaud qu'il ne l'était sur la terre, entre guillemets. Du coup, vous vous dites quoi pour la fin de l'année, Frédéric ? Comment vous voyez finalement, ou comment vous pressentez la fin de l'année boursière ?
Ça va être, honnêtement, je pense qu'on a encore un mois et demi quand même compliqué et très volatile. On ne peut pas exclure non plus qu'on retouche un point bas. C'est pas impossible. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que faut être clair, il y a un manque de visibilité sur la période. Après, il y a des facteurs techniques qui permettent d'imaginer peut-être une fin d'année un peu plus positive. L'absence des grands institutionnels qui n'ont jamais aussi peu d'actions dans leur portefeuille. On a des caractères techniques aussi hein, sur le marché. On voit par exemple que la valorisation, parce que au moment où on se parle quand même, le CAC 40, je vais prendre le cas qui nous intéresse, on a un PE qui est dans la moyenne très très basse, entre 10 et 11. On a une croissance bénéficiaire à deux chiffres. On a des taux d'endettement d'entreprise qui n'ont jamais été aussi bas, des taux de marge qui sont à 20%. Donc, vous voyez bien, entre plus de 20% de croissance des BPA et moins 12, moins 13, moins 14, il y a une divergence phénoménale de performance. Donc, il y a peut-être un juste milieu. Alors, bien sûr, l'année prochaine, on n'arrivera pas à tenir ces taux de marge. On regarde notamment des tensions salariales, des matières premières et autres. Mais il y a peut-être un point de convergence. Donc ça, c'est plutôt une forme de soutien au marché. En attendant, je pense qu'il faut être quand même plutôt prudent, plutôt sous-pondéré. Il y a des secteurs qu'il faut vraiment favoriser. Je pense qu'on a vu les résultats.
Du genre ?
On a vu les résultats de Pernod, c'est très robuste. Tout ce qui est food et beverage, donc alimentation, boisson, ça c'est plutôt robuste. Le secteur santé a toujours une dynamique favorable. L'énergie, mais il faut être prudent parce que ça dépend aussi de la croissance. Voilà, donc il y a des choses à faire sur le marché, sur des valeurs cycliques, bien sûr. Voilà, c'est vrai que si vous investissez, par exemple, sur le secteur auto et on apprend que cet hiver, on ferme toutes les usines parce qu'il faut restreindre la production, on regarde
ouais, l'énergie. Forcément, ça marchera moins bien.
Ça marchera moins bien. Donc voilà, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller parce que les valorisations sont hyper attractives. Je pense à des Volkswagen, par exemple, des Stellantis. Ça, c'est plutôt intéressant en termes de valorisation. Maintenant, il y a un vrai risque sur la production, notamment en zone euro.
Hervé, comment vous pressentez cette fin d'année ?
Moi, je regarderai qu'une seule chose. Hein. Je regarderai le profil des prix aux États-Unis. Si on arrive à se persuader que le point haut est derrière, moi, j'ai quand même l'impression que ça sera ressenti comme un très bon signal et que dans ce cas-là, bon, on se dira les marges tiennent plutôt, blablabla. Et donc, ça nous fera une petite bouffée de chaleur ou d'oxygène sur les marchés actions.
Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Rosier-Mirabeau, Hervé Gouletker pour Accuracy était au cœur de Regards Croisés ce matin. Dans un instant, détour technique par les marchés. Puis on vous rappelle les podcasts qui sont à votre disposition sur notre site ou sur nos plateformes partenaires et qui vous permettent bien évidemment de nous retrouver à votre convenance à tout moment.
BFM Patrimoine. l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et vous connaissez notre engagement à l'entame de chaque demi-heure, prendre le pouls du marché, pouls technique à 11h30 grâce à Mathieu Cérone, que l'on retrouve chez Perceval Finance Conseil et qui nous fait l'amitié de suivre la séance aujourd'hui. Bon, on a l'air d'avoir un peu opté pour une prudence négative, on va dire, Mathieu.
Oui, tout à fait. On reste toujours dans une petite zone d'attraction baissière, suite notamment au fort repli du début de semaine. La zone de résistance que je vous proposais, 6245,50 à la vente, a fonctionné, puisque derrière, on a atteint l'objectif 6210, donc le premier objectif pour alléger sensiblement. En dessous, c'est la zone des 6185,95. Et puis si on franchissait, si on sortait par le bas de cette zone-là, on aurait une nouvelle impulsion baissière des marchés qui digère calmement ce qui s'est passé en début de semaine. On voit que les volumes restent très faibles à la veille de l'échéance, puisque demain c'est quand même une échéance trimestrielle. Donc il y a des enjeux qui sont importants, des positions qui sont déjà tournées. Donc mécaniquement, le volume va augmenter aujourd'hui et surtout demain. Et malgré l'échéance, les volumes restent assez faibles. Sur le CAC, il est inférieur à 500 millions. Vous voyez, 500 millions à titre de comparaison, c'est ce qu'on peut avoir vers 10h, 10h30 dans des séances qui bougent pas mal. À noter sur les valeurs qu'on a une sous-performance du luxe, donc c'est un élément négatif aussi, puisque quand on connaît la pondération du luxe au sein du CAC, on est autour, me semble-t-il, de 20-25%, donc en sous-performance. À l'inverse, on a les bancaires qui surperforment, un CAC qui pour le coup est assez proche de l'équilibre, des ventes sur rebond à privilégier, même si c'est vrai que on peut aussi être tenté par des petits achats sur des replis, mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que tous les jours, bon, on vous donne des niveaux et on fait des articulations, nous, dans notre trading, pour des niveaux de remise en question. Mais là, ce qui prime, c'est l'ambiance générale, c'est le contexte avec des marchés. Je le répète, pour nous, on a du mal quand même à envisager une reprise solide et durable. Et même en début de semaine, lorsqu'on s'approchait des 6004, c'est vraiment le message qu'on envoyait et c'est ce que l'on a joué. Alors, en étant couvert dans la mesure du possible, parce qu'on peut très bien se tromper, il faut toujours avoir des scénarios alternatifs. Mais en tout cas, voilà, on a plus de facilité psychologique et en raccord avec le technique à travailler. D'accord. Vendeur, 6245,50 à surveiller et échéance demain trimestrielle. Donc pour ceux qui interviennent sur les dérivés, pensez à tourner vos positions.
Petit conseil signé Mathieu Cérone depuis Perceval Finance Conseil. Merci Mathieu. Le CAC 40 qui en ce moment perd très très modestement 0,08%. On est à 6217 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directrice générale de Novetic. Il y a une news qui a fait pas mal de bruit et qu'on inspecte ce matin avec notre prisme économique et écologique. C'est ce choix de la municipalité d'Arlem, aux Pays-Bas, de supprimer la publicité pour la viande dans les rues dès 2024. Qu'est-ce que
Vous savez à quoi ça sert la pub, c'est finalement de rendre visible un produit et d'espérer que ceux qui voient la publicité l'achètent. Alors la ville de Harlem, elle a retourné le principe finalement en se disant on m'interdit la publicité pour la viande, ce qui permet de parler du problème du poids de la viande dans la contribution climat, puisque en fait on est quand même sur, il faut avoir en tête qu'il y a un tiers des émissions de CO2 mondiales qui est lié à l'élevage intensif. Alors, principalement bovin, mais en fait de tous les types de viande, et que ça représente 60% des émissions liées à l'agriculture. Donc c'est un poids considérable. Et donc ils sont la première ville au monde à faire ça. Évidemment, il y a eu un buzz énorme. Et du coup, on dépasse un peu le débat traditionnel très présent en France, qui est les viandards entrecôtes frites barbecue contre les végétariens tofu et amis de Gatactone.
Vous nous avez donné quelques chiffres, mais que représente cette économie de la viande?
Alors, il faut avoir en tête que, déjà, il faut avoir en tête que les Pays-Bas, c'est un peu la plaque tournante de l'industrie agroalimentaire en Europe. Premièrement. Deuxièmement, alors eux, c'est plutôt, on a évidemment en tête souvent l'élevage intensif, au Brésil, la déforestation liée au soja. Quand on parle d'un tiers des émissions, on englobe évidemment.
On englobe tout ça. C'est pas l'élevage du coin de la rue.
Voilà, c'est ça. Donc c'est
du coin de la campagne.
L'idée déjà que ces élevages sont planétaires et que l'élevage brésilien nourrit la planète entière. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais même si on prend que les Pays-Bas, eux, c'est plutôt des gros éleveurs de porcs. À titre indicatif, en 2021, c'est plus de 1700 milliards de tonnes. 1700 milliards de tonnes de porc produites aux Pays-Bas. C'est-à-dire 7% de la production européenne. Et ce qu'on ne sait pas beaucoup forcément, c'est que l'Europe est le deuxième producteur mondial de porc derrière la Chine. Donc c'est vraiment une économie extrêmement importante. Et ce qui est intéressant, c'est que les Pays-Bas, qui ont pris vraiment une série de mesures, depuis, alors ils y sont un peu obligés par le tribunal, puisqu'ils ont été condamnés comme pays à devoir faire plus et mieux sur la lutte contre le changement climatique. Donc du coup, ils ont capé le nombre de vols dans leur hub de Schiphol, le vol aérien. Et oui, ils ont aussi
donc il n'y a pas que la viande, quoi. Hein,
c'est... Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout ça se conjugue. Ouais. Et donc, ils ont aussi capé le nombre de porcs. Alors, ça paraît un peu particulier, mais en gros, aujourd'hui, ils sont à plus de 22 millions de porcs dans des élevages intensifs, bien évidemment. Et du coup, l'objectif, c'est 18 millions de porcs à 2030. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce type de mesure...
Pour faire baisser le cheptel.
Voilà, pour faire baisser le cheptel, donc pour faire baisser les émissions de CO2, et donc pour penser autrement l'agriculture, puisque l'idée, c'est pas d'éradiquer la viande, et c'est ça qui est intéressant avec la décision d'Arlem. C'est pour, évidemment, poser le sujet sur la table, et de se dire, il faut, pour lutter efficacement contre le changement climatique, combiner des tas de choses et réduire ce qui est le plus nocif, en imaginant, en particulier pour l'agriculture, d'autres moyens de production de viande.
Donc ça veut dire, en fait, si je vous comprends bien, Catherine Husson-Traoré, que la trajectoire est déjà amorcée, et que donc là, on est plus en train de parler d'une question de publicité que d'une question de viande.
Oui, alors, on a la même démarche en France, puisque dans la loi énergie et climat, il y a par exemple l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Donc, depuis cet été, on ne peut plus avoir une magnifique publicité pour telle station essence ou autre. Donc, l'idée d'attraper la pub, c'est finalement de prendre un problème pour sensibiliser par l'information, puisque la publicité est un mode d'information auquel on est très exposé, à un sujet et d'empêcher la promotion d'un type d'économie ou d'activité qui est très nuisible pour le climat.
Eh bien voilà quelques idées à avoir ce matin en tête autour de ces questions-là. Anne-Catherine Husson-Traoré, merci beaucoup d'être
passée. Peut-être juste ajouter un tout petit point, et du coup le producteur de viande végétale Lavie, s'est aussitôt emparé du sujet et a fait une campagne d'affichage dans Harlem en disant vous n'avez plus de viande mais nous on a de la viande végétale. Et donc, ils ont pris tous les espaces publicitaires de la ville de
Harlem. D'accord, parce qu'eux ne sont pas confrontés à nos turpitudes de réflexion entre les décrets. Oui, mais vous savez, ce décret qui, pour le moment, est suspendu, je crois, c'est ça ? Qui nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre steak végétal ou lardon végétal.
Absolument. Donc, du coup, ils se sont délocalisés aux Pays-Bas où ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, on voit que c'est des sujets qui sont effectivement très, très sensibles.
Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré, donc et Novetic qui nous accompagne régulièrement sur le green. Le marché parisien lui se montre très hésitant. Le CAC 40 perd 0,03%, on est à 6220 points. C'est une tendance qu'on observe d'ailleurs un peu partout en Europe. On ne grignote que 0,1% sur l'Eurostock 50. L'eurodoll lui est à 99,99.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et comme chaque jour, en fin d'émission, on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à nous solliciter. Notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et chaque jour, nos experts sont au rendez-vous pour vous répondre. Et ce matin, c'est Barbara Thomas-David, notaire. Bonjour Barbara.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous et de répondre aux questions de nos auditeurs. On commence avec cette question que vous pose Karine, qui a 3 enfants. Et elle déplore, Karine, que seule sa fille aînée s'occupe d'elle. Et du coup, elle se demande, est-ce que je peux la gratifier, entre guillemets, donc lui laisser tout à mon décès.
Alors, vous savez, on a coutume de dire qu'en droit français, on ne peut pas déshériter ses enfants. Alors, c'est vrai et pas. En fait, en droit français, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. C'est une quote-part de la succession dont on ne peut absolument pas déshériter ses enfants. Elle diffère en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Si vous avez un enfant, sa réserve est de moitié. Vous pouvez donc donner l'autre moitié de votre patrimoine. 2 enfants, réserve, 1/3 chacun, on peut donner le tiers restant. 3 enfants ou plus, vous pouvez donner un quart de votre patrimoine. Donc, ça veut dire que chacun des trois enfants a une réserve d'un quart. Donc, Karine, elle va pouvoir donner à sa fille préférée sa réserve, plus la quotité disponible, c'est-à-dire la moitié de la succession. Mais elle ne pourra pas tout lui donner. Mais elle peut la gratifier. Il faut faire un testament au terme duquel elle va donner le maximum de ce que la loi peut donner à un enfant lorsqu'on en a trois, c'est-à-dire là, la moitié de sa succession. Il faut faire un testament, il faut aller voir son notaire. Et puis on peut ajouter quelque chose, c'est que la réserve, elle se sert en valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, vous pouvez léguer l'intégralité de votre patrimoine. Donc, Karine pourrait, au terme d'un testament, léguer la totalité de son patrimoine à sa fille préférée. Et sa fille devra verser ce qu'on appelle une soulte, une somme d'argent à ses frères et sœurs pour les désintéresser. C'est-à-dire que la réserve, elle se sert en valeur. C'est ce qu'on dit. C'est parce que, en fait, on n'est pas obligé de transmettre un quart de son patrimoine. On peut désintéresser par une somme d'argent.
Alors ça, c'est si on reste dans le cadre, effectivement, de cette réserve et de cette quotité disponible. Malgré tout, il y a des outils aussi patrimoniaux. Je pense à l'assurance-vie, par exemple, qui est hors succession. Donc, Karine, elle peut aussi utiliser l'assurance-vie, entre guillemets, pour déshériter ses filles,
alors,
enfin, ses autres enfants.
Oui, alors, en plus de ça, c'est le placement préféré des Français, donc c'est vrai que l'assurance-vie, on dit toujours que c'est un outil de défiscalisation et ça permet aussi de transmettre hors succession. Je dirais qu'il faut être raisonnable, parce que là aussi, vous avez un pouvoir souverain du juge qui fait que si vous transmettez des primes d'assurance manifestement trop importantes par rapport à votre patrimoine, eh bien, ça va être retoqué. Autrement dit, si vous restez dans le domaine du raisonnable, vous pouvez transmettre à votre enfant préféré. Maintenant, si vous mettez tout votre patrimoine en assurance-vie et que vous transmettez tout, là,
ça peut se voir a posteriori, c'est ça. Ça peut se voir a posteriori, les enfants se sentant lésés, pourraient aller contester le contrat d'assurance-vie.
Alors, ils ne pourront le contester qu'après le décès.
Oui, c'est ça. Hein.
Et encore, là, c'est le pouvoir souverain des juges qui disent, oui, c'est manifestement exagéré, ou non, ça ne l'est pas, ou oui, ça l'est dans telle proportion. Généralement, on réduit dans ces cas-là, mais on ne supprime pas la totalité de l'assurance. Ça fait.
Bon. Voilà donc, Karine, quelques idées pour peut-être gratifier cette fille aînée qui est plus proche de vous, mais vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. À l'étranger, c'est possible.
Par exemple, dans les pays anglo-saxons, vous avez la possibilité de léguer l'intégralité de votre patrimoine à qui vous souhaitez, tout à fait.
Question de Léon, à présent, qui vend sa résidence secondaire et il se demande s'il aura de la plus-value à régler.
Alors, déjà, première chose, il y a des cas...
Il a gagné de l'argent, oui, non ?
Il y a des cas d'exonération de la plus-value. Les cas d'exonération, c'est quand vous vendez votre résidence principale, pas de plus-value. Et quand vous vendez votre résidence secondaire et que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, que vous ne l'avez pas été pendant les 4 dernières années, si vous employez les fonds dans l'acquisition d'une résidence principale, dans les 2 ans, Léon, eh bien, il n'aura pas de plus-value à payer. Donc ça, c'est un cas important qu'on oublie souvent.
Donc il faut ne pas avoir été propriétaire depuis 4 ans de sa résidence principale.
Tout à fait.
Et investir dans les 2 ans qui suivent la vente.
Et le mettre dans l'acte
Et que ce soit bien mentionné.
Et si vous ne respectez pas vos engagements, vous êtes retoqué et vous payez en plus de ça une pénalité de 10%. Donc il faut faire attention et respecter ses engagements. Mais alors, Léon, s'il n'a pas envie d'acheter sa résidence principale ou s'il est déjà propriétaire d'une résidence principale, il va falloir qu'il fasse les comptes. Parce qu'il y a une troisième cause d'exonération, si vous êtes propriétaire depuis plus de 30 ans. Donc si Léon est propriétaire de sa résidence secondaire depuis plus de 30 ans, là aussi il est exonéré. Dans les autres cas, il va devoir payer de la plus-value. Vous avez une partie, c'est l'impôt sur le revenu, une autre partie, c'est des contributions sociales. En tout, c'est 36,2% avec des abattements au fur et à mesure du temps passé.
Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il regarde son délai de propriété, quoi.
C'est-à-dire exactement.
Mois après, il peut passer du tout au tout.
Exactement. Et puis, moi, c'est quand même un calcul qui est assez complexe à faire. Donc, moi, mon conseil, c'est peut-être qu'il aille voir son notaire pour qu'il fasse une simulation, en disant, voilà, j'ai acheté tant, je vends tant, combien est-ce que je vais payer? Et effectivement, comme vous le disiez à juste titre, on va peut-être lui dire attendez encore un an ou deux parce qu'il y a une décote plus importante, ou non, c'est bon, là vous
ne pouvez pas faire plus, c'est bon. Tout est saturé.
Et garder ses factures aussi, parce qu'il y a un abattement forfaitaire de 15% pour travaux. Mais si Léon a fait des travaux pour un montant supérieur à ces 15% du prix d'achat, ben, il va pouvoir déduire. Donc c'est intéressant de vraiment toujours garder ses factures d'amélioration d'un bien.
Voilà vos infos, Léon, concernant votre résidence secondaire. Donc attention à la période de détention de cette résidence secondaire. Et puis, l'autre point important, c'est si vous voulez réinvestir dans une résidence principale. Question d'Anissa. Elle a entendu dire que l'on ne peut donner à ses enfants que dans la limite de 100 000 euros. Est-ce vrai? Et elle se demande si l'avenir se montrerait peut-être plus favorable, notamment s'il y aurait des changements suite à la réélection d'Emmanuel Macron.
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, parce que...
Combien puis-je donner?
Les personnes pensent qu'on ne peut pas donner plus de 100 000 euros. Et en fait, il y a une confusion entre le civil et le fiscal. C'est-à-dire que fiscalement, vous pouvez donner 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Autrement dit,
Libre de droit.
Mais ça ne vous empêche pas de donner plus. Et les gens pensent qu'ils sont limités à ces 100 000 euros. On peut donner plus, mais on va payer des droits. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous avez un bien qui vaut 400 000 euros, bien immobilier, vous êtes deux parents, deux enfants, abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, votre maison, elle est parfaitement exonérée de droits.
Pour peu qu'elle soit la propriété des deux parents.
Exactement, moitié-moitié. En revanche, même maison qui vaut 800 000 euros, vous allez pouvoir la donner, mais vous allez avoir cet abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, il restera taxable 100 000 euros, et là, vous allez payer des droits à 20% par enfant par parent, donc ça fait 20 000 euros x 4, 80 000 euros. Donc, vous voyez, vous pouvez donner au-delà, et ensuite, évidemment, vous êtes fiscalisé. Mais ça ne vous empêche pas de donner.
Et on peut préciser que les droits à payer peuvent être pris en charge par les donateurs,
tout à fait,
au profit des donataires, sans que ce soit un don supplémentaire.
Vous avez tout à fait raison. C'est une précision qu'on peut effectivement faire. C'est-à-dire que normalement, les droits doivent être payés par celui qui reçoit, par les donataires. Mais il y a, on va dire, une faveur fiscale qui fait que si les parents payent les droits, eh bien, il n'y aura pas de fiscalité sur ce paiement. C'est important de le souligner, vous avez raison.
À ces 100 000 euros, on peut aussi quand même ajouter les dons de sommes d'argent, non?
Tout à fait.
31 865 euros. Les ex-dons Sarkozy, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc, une somme d'argent, vous pouvez donner jusqu'à 131 865 euros.
Et là aussi, c'est tous les 15 ans.
Tous les 15 ans.
Est-ce qu'il va y avoir des changements? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces questions de transmission. Il y avait effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, des idées.
Il y avait des idées, les deux pistes. Alors il faut attendre la loi de finances rectificative pour 2023, mais les deux pistes c'était soit un abattement qui passerait à 150 000 euros au lieu de 100 000, soit limiter la durée de reconstitution de l'abattement et de le repasser de 15 ans à 10 ans. C'était cette deuxième piste qui, a priori, serait plus étudiée, mais on est très attentif, mais je pense qu'on aura des nouvelles d'ici le mois de décembre.
Revenir finalement à l'avant François Hollande, c'est ça?
C'est ça, où c'était un abattement tous les 10 ans et 150 000 euros.
Question de Nina, à présent, qui va vendre son appartement et elle se demande si elle a l'obligation de déménager le jour de la signature. Si elle veut vendre, va falloir déménager quand même à un moment.
Exactement. Mais là aussi, c'est vrai que c'est une question qui revient. Le jour de la vente, il y a transfert de propriété par la position des signatures du vendeur et de l'acquéreur sur l'acte authentique de notaire. Il y a transfert de propriété, ça veut dire qu'on vérifie systématiquement que l'acquéreur est bien assuré. Parce que si le bien immobilier brûle le lendemain de la signature, c'est à la charge de l'acquéreur. Donc normalement, le vendeur, il faut qu'il ait déménagé ses meubles le jour de la signature. Et c'est le cas dans 90% des cas. Et vraiment, nous, on conseille de le faire. Parce que juridiquement, il peut y avoir un accord entre le vendeur et l'acquéreur. Et à ce moment-là, il faut mettre dans l'acte ce qu'on appelle une clause séquestre en disant « on garde un peu de sous ». le temps que l'acquéreur déménage, pour qu'évidemment, au bout d'un moment, il puisse déménager.
Une motivation, quoi.
C'est ça. Mais bon, c'est franchement à déconseiller, parce que s'il y a un meuble qui est perdu, qui est abîmé, qui disparaît, il y a vraiment des problèmes. On a des outils, encore une fois, juridiques pour encadrer le fait que les meubles restent un temps dans l'appartement ou dans la maison, mais le mieux, c'est quand même de déménager avant.
Et en cas de turbin, enfin bref, on peut imaginer que Nina dise je vais devenir locataire de mon propriétaire.
En fait, ah oui, ça arrive. On fait ce qu'on appelle, on peut signer un bail précaire et ça nous arrive de temps en temps, des gens qui finalement pensaient se reloger ou racheter et puis finalement,
ils ont. On peut toujours avoir un turbin dans le processus immobilier. On sait que parfois, un refus de prêt, un vendeur qui se dédie, ça peut toujours arriver.
Mais quoi. Ça peut arriver. Il y a eu ce genre de problème, notamment pendant le confinement. C'est-à-dire que les gens ne retrouvaient pas, il y avait des gens qui étaient dans des situations un peu compliquées, et on peut signer un bail précaire pour une durée limitée dans le temps. Et là aussi, généralement, on met une clause séquestre, on séquestre une somme d'argent pour que ça soit un peu contraignant pour le vendeur.
Voilà, Nina. Question de Lionel à présent. Le fils de Lionel achète un appartement. Lionel voudrait aider son fils, mais il a d'autres enfants et il se demande ce qu'il est possible de faire.
Alors, la première chose pour assurer Lionel, c'est que oui, il va pouvoir donner le petit coup de pouce à son fils qui achète un bien immobilier et lui faire notamment une donation de somme d'argent. Encore une fois, tout à l'heure, je vous le précisais, on peut donner 131 865 euros. Francs de droit. Et puis, effectivement, Lionel peut se dire je donne à mon fils, et puis dans 4 ans, s'il a une fille, par exemple, je vais donner à ma fille parce que c'est le moment où elle va acheter, et faire des donations au fil de l'eau. Alors, juridiquement, c'est possible, mais il y a quand même un petit fil rouge qui est que le Code civil indique qu'on réévalue tout au moment du décès. C'est-à-dire que si Lionel donne à son fils 100 000 euros, et puis, 5 ans après, respecte l'équité, donne à sa fille 100 000 euros également. Et que les biens qui sont achetés par les deux enfants ne prennent pas la même valeur, et qu'au moment du décès, par exemple, le fils aîné, ait une plus-value de 20% et la fille une plus-value de 10%, eh bien, le fils va devoir donner en valeur à la fille la moitié de la plus-value dont il a bénéficié. Donc, c'est le Code civil qui est ainsi fait. Oui. Il y a une façon de faire pour éviter ça, c'est faire ce qu'on appelle une donation partage. C'est-à-dire, c'est donné et partagé, et on n'y revient plus.
Et cette donation partage, ouais, on peut même la faire. Enfin, en admettant, par exemple, Lionel aujourd'hui donne à son fils, ouais, sans se dire que demain il donnera à sa fille. Et si demain il donne à sa fille, il peut reprendre la donation faite à son fils, c'est ça ?
Je vois que vous connaissez, le mécanisme.
C'est ça, hein,
ça. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de se rattraper. Et c'est vrai que Lionel, il n'a peut-être pas les moyens de donner à son fils et à sa fille aujourd'hui.
Et à sa fille tout de suite, ouais, c'est ça.
Donc, au moment de la deuxième donation, on peut rattraper les choses.
Donc, c'est-à-dire que si on n'y a pas pensé, quand le cas se présente, on peut rattraper tout ça. Il n'est pas obligé de donner, il peut prêter aussi, non ?
Oui. Bien sûr, il peut prêter, il peut même prêter en disant que ça sera remboursé au moment de son décès.
D'accord.
Donc ça évite les droits et ça permet des compensations au moment du décès.
Et le fisc ne trouve jamais rien à redire quand on prête ? Enfin, je veux dire, faut faire un certain... Enfin, il y a des procédures à respecter, il y a un certain formalisme.
Oui, il y a un formalisme qui est de faire un acte de prêt. Pour faire un acte de prêt authentique chez un notaire, comme ça fiche véritablement les choses et c'est incontestable, à condition, bien évidemment, qu'il y ait le transfert de fonds en parallèle de l'acte qui est fait.
Et si, parce que là, vous nous évoquiez le fait de rembourser à son décès, mais on peut faire un vrai prêt classique avec un taux, on peut mettre un taux d'intérêt, il faut rembourser chaque mois, enfin tout ça, ça doit être...
C'est les mêmes conditions que celles dont vous pouvez bénéficier en matière de prêt bancaire, hein. Conventionnellement, on fait ce qu'on veut, on peut faire un prêt in fine ou un prêt amortissable avec des remboursements mensuels équivalents à ceux d'une banque.
Et dans ces cas-là, on est obligé de faire un taux d'intérêt ou on peut le faire à taux zéro ?
On peut faire un prêt à taux zéro, à ses enfants, tout est possible.
Eh bien voilà, vous savez tout sur les façons d'aider éventuellement vos enfants à acheter un appartement, Lionel. Merci beaucoup, Barbara.
Avec plaisir.
Barbara Thomas-David, notaire qui nous accompagne très régulièrement dans ce monde patrimonial. À très bientôt. Le marché parisien, pour le moment, il est en repli. On perd 0,16%, 6212 points. Dans un instant, comme chaque jour, oui. 60 minutes business avec Sandra Gandoin. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Qu'est-ce que vous nous proposez ?
On va parler d'énergie, évidemment, après la journée d'hier. On pouvait que y revenir. Le bouclier tarifaire, les tarifs du gaz et de l'électricité qui vont augmenter de 15%. C'est peut-être le signal qui va pousser les ménages, finalement, à faire des économies. On en parlera avec Mathieu Pechberti et avec Jean-Marc Daniel. Et puis, ce jeudi, Vladimir Poutine et Xi Jinping se rencontrent pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Sur quoi ça va découler ? On en parlera avec Jean-François Di Meglio. Et puis on va parler champagne aujourd'hui, figurez-vous, l'année s'annonce exceptionnelle, même si le secteur, comme beaucoup d'autres, souffre de pénurie. Christophe Juarez, le directeur général de Terroir et Vigneron de Champagne, sera avec nous à 12h30, bien sûr, on répondra aux questions que vous nous avez posées, on parlera notamment d'alternance.
Ça va pétiller donc dans 60 minutes business, dans un instant avec Sandra Gandoin. Nous on se retrouve demain matin, bien évidemment, dès 10h pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Je vous souhaite une très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.